voulu faire un cadeau à tous ses employés. Il y en avait 4. C'est rare, hein? Généralement, c'est l'inverse. Quand on a son anniversaire, on aime bien de recevoir. Lui, c'est le contraire. À l'occasion de ses 70 ans, il a souhaité faire un cadeau à ses employés. Alors, ils étaient au nombre de 4 et s'adressant au palefrenier, c'est celui qui s'occupe des écuries, des chevaux, eh bien, il lui dit, à l'occasion de mon anniversaire, choisissez entre, j'ai envie de vous faire un cadeau, choisissez entre cette Bible ou ce louis d'or. Alors le palefrenier, de lui répondre, « Oh, si je savais lire, peut-être que je prendrais la Bible, mais l'argent me sera certainement bien plus utile. » « Bien, lui dit le maître, voici ton louis d'or. » Et puis, il s'adressa au jardinier. Et se tournant vers le jardinier, lui dit, « Et toi, qu'est-ce que tu préférerais ? Tu préférerais un louis d'or ou bien la Bible ? Oh, ma femme est tellement malade que l'argent me sera certainement utile pour bien la soigner. » Alors, le maître, donc il reçut du maître ce louis d'or et se retira en s'inclinant avec beaucoup de respect. Et puis, s'adressant à Marthe, la cuisinière, le maître lui demanda, lui dit, « Et toi, Marthe, tu sais lire ? Tu prendras peut-être la Bible, ou alors ce louis d'or. »« Oh, c'est vrai que je sais lire, » répondit la cuisinière, « mais je n'ai pas le temps de lire. Et puis, l'argent me sera tellement plus utile pour renouveler mes vêtements. » Et puis, enfin, il se tourna vers le valet de chambre et lui dit, « Toi aussi, tes vêtements sont usés, peut-être que tu auras besoin de l'argent pour t'en acheter de nouveau. » Et le valet de chambre de lui répondre, « Merci pour votre offre, maître ou patron, mais je vais choisir la Bible parce que ma mère me disait que c'était un trésor plus précieux que l'or et plus précieux que l'argent. « Que Dieu te bénisse, lui dit son maître, voici ton cadeau. » Et il lui tendit la Bible et en recevant la Bible, il vit une pièce d'un louis d'or tombée par terre. Et en ouvrant la Bible, il vit aussi que son maître avait glissé entre certaines pages de la Bible, plusieurs billets de banque. Alors les 3 autres employés se rendirent compte de leur mauvais choix et ils se retirèrent avec honte et confusion en étant remplis de regrets. Alors peut-être que dans la Bible, nous n'allons pas trouver de pièces d'or. Mais, comme nous l'avons rappelé ce matin, la consolation qu'elle apporte, le réconfort qu'elle apporte, l'espérance qu'elle apporte, ne constitue-t-il pas autant de trésors pour chacune de nos vies? Et le psalmiste de dire au psaume 119, verset 72, « Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. » Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Nous avons entre nos mains un véritable trésor. Et tout cela pour introduire le psaume que nous allons lire, le psaume 19, les 11 premiers versets, versets 1 à 11 du psaume 19. Psaume 19, 1 à 11. C'est un psaume de David dans lequel il chante « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains » ou « L'étendue manifeste l'œuvre de ses mains » selon d'autres versions. Et le jour en donne instruction au jour, la nuit en donne connaissance à la nuit, ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, leur voix n'est pas entendue, leur trace apparaît sur toute la terre, leur accent vont aux extrémités du monde où il a placé une tente pour le soleil. Et celui-ci, semblable à un époux qui sort de sa chambre, se réjouit comme un héros de parcourir sa route. Il s'élance d'une extrémité du ciel et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véridique, il rend sage le simple. Les ordres de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement de l'Éternel est limpide, il éclaire les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les ordonnances de l'Éternel sont vraies, elles sont toutes justes. Plus précieuses que l'or, même que beaucoup d'or fin. Plus douces que le miel, même que le miel qui coule des rayons. Alors ce psaume que nous venons de lire se divise en deux parties. La première partie, elle se trouve des versets 1 à 7, et la deuxième des versets 8 à 11. Dans la première partie, le psalmiste présente tout d'abord le grand livre de la création. Et puis, dans la deuxième partie, des versets 8 à 11, eh bien, il présente le livre inspiré, la Torah, la loi de Dieu. Le premier révèle la grandeur, la puissance, la gloire du Dieu créateur à travers les cieux, comme nous l'avons lu, à travers l'étendue, à travers le jour, à travers la nuit, à travers le soleil, à travers les astres. Verset 2, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Donc, la révélation par la nature, la révélation à travers la création montre la gloire, la puissance, la grandeur de Dieu. Premier livre. L'apôtre Paul, par ailleurs, en Romains 1, verset 20, eh bien, nous parle aussi de cette révélation par la nature lorsqu'il dit, ce verset bien connu, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. La création du monde constitue pour chacun des êtres humains une révélation naturelle de Dieu, une révélation à travers sa création. Et puis le deuxième livre que mentionne le psalmiste David des versets 8 à 11 est donc celui de la Torah, celui de la loi, le livre de l'Alliance. Et pour vivre de cette alliance, eh bien le livre de la révélation naturelle n'est pas suffisant. Il faut aussi le livre inspiré. Il faut aussi la loi de l'Éternel. Il faut aussi cette Torah. David, dans ce psaume 19, désigne la parole de Dieu, la Torah, par différents titres. Nous les avons lus. La loi de l'Éternel, au verset 8. Le témoignage de l'Éternel, au verset 8 encore, les ordres de l'Éternel, au verset 9, le commandement de l'Éternel, encore au verset 9, la crainte de l'Éternel et les ordonnances de l'Éternel, au verset 10. Tout cela, ces différents titres, pour définir finalement la parole de Dieu, le livre inspiré. Alors cette loi, elle est précieuse pour David. Il dit que la loi de l'Éternel est plus précieuse que de l'or et que même que beaucoup d'or le plus fin. Beaucoup d'or le plus fin. Et alors on peut se poser la question, mais pourquoi ? Pourquoi la parole de Dieu a-t-elle tant de prix aux yeux de David ? Pourquoi la parole de Dieu est-elle aussi précieuse pour David ? Pourquoi David considère-t-il la parole de Dieu comme étant finalement supérieure à n'importe quel trésor? Eh bien, il répond lui-même à cette question dans le texte que nous avons lu. Il en énumère lui-même donc les raisons. Il y en a six. Six raisons qui justifient donc la préciosité, si je puis dire, de la parole de Dieu aux yeux de David. La première, c'est parce qu'elle restaure l'âme. Verset 8. La deuxième, c'est parce qu'elle rend sage. Toujours au verset 8. La troisième raison qui justifie la valeur des Écritures aux yeux de David, des Saintes Écritures aux yeux de David, c'est parce qu'elle réjouit son cœur. La quatrième, au verset 9, c'est parce qu'elle éclaire ses yeux. La cinquième, au verset 10, c'est parce qu'elle subsiste à toujours. Et puis enfin, la sixième, c'est parce qu'elle est juste. La parole de Dieu, donc, pour David, restaure l'âme, rend sage, réjouit le cœur, éclaire ses yeux, subsiste à toujours et finalement est juste. Et on va passer brièvement, succinctement, en revue ces différentes raisons qui rendent la parole de Dieu si précieuse aux yeux de David. Tout d'abord, la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. La parole de Dieu, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. L'âme, notre âme, l'âme de l'être humain, est polluée par le péché. L'homme est toujours enclin, est toujours porté vers ce qui est mal, vers ce qui est mauvais. Et Genèse, dans Genèse chapitre 6, versets 5 à 7, il est écrit ceci. Dieu vit, on connaît ce verset, que la méchanceté, c'est dans le contexte du déluge, Dieu vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Si tu te nourris de choses négatives, de choses mauvaises, elles vont prévaloir, elles vont dominer, elles vont prendre le dessus, elles vont contrôler ton âme. Par contre, si tu te nourris de choses positives, de bonnes choses, des choses vertueuses, spirituelles, des choses bonnes qui proviennent, qui sont inspirées par la parole de Dieu, eh bien alors ce sont elles qui vont diriger ton âme. Ce sont elles qui vont diriger ta vie. D'où ces paroles du psalmiste, toujours au psaume 119, auquel nous avons fait référence tout à l'heure au verset 11, un verset bien connu. « Je serre ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Je serre ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je la lis, je la médite, je la mémorise, je m'en imprègne. Je la laisse envahir mon âme, je la laisse envahir mon être. Ici, chaque jour, eh bien, je m'imprègne de cette parole de Dieu. Elle va faire bouger toutes les choses négatives qui sont installées dans mon âme. Dans Josué, au chapitre 1, verset 8, il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, et pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le, jour comme la nuit. Dieu, par la puissance de sa parole, a le pouvoir de te transformer, de changer ta mentalité, de changer ton sale caractère, de changer tes mécanismes de pensée erronés, faux, tronqués. Dieu veut changer, transformer tes mauvaises habitudes. La parole de Dieu est capable de restaurer notre âme. C'est ce que le psalmiste dit, n'est-ce pas, comme nous l'avons lu tout à l'heure. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. En outre, cette même parole, eh bien, elle peut aussi restaurer ton âme qui est blessée par une humiliation, par un rejet, par un sentiment d'abandon, par une forme de trahison quelconque, par toutes sortes de traumatismes, un divorce. La parole de Dieu peut restaurer ton âme. Toutes ces choses qui ont fissuré, qui ont fragilisé, qui ont pourri ton existence. La parole de Dieu restaure l'âme. 1 Pierre 1, verset 23 dit que la parole de Dieu est semblable à une semence qui nous régénère. Elle renouvelle notre être intérieur. La parole de Dieu transforme notre être intérieur. Elle travaille notre être intérieur. Elle renouvelle notre être intérieur. Elle nous régénère, dit 1 Pierre chapitre 1, verset 23. En Hébreux 4, verset 12, nous voyons que la parole de Dieu, elle est vivante. Comme nous l'avons rappelé tout à l'heure à travers la présidence d'Aurélien. La parole de Dieu, elle est vivante. Et elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant qui va jusqu'à pénétrer au plus profond de nous-mêmes, au plus profond de notre âme. Elle est efficace. La parole de Dieu est efficace. Alors pour être efficace et opérante, bien évidemment, il faut nous laisser envahir de la parole de Dieu. Il faut que nous puissions absorber la parole de Dieu dans chacune de nos vies pour qu'elle soit efficace, opérante et agissante, pour qu'elle nous transforme, pour qu'elle restaure notre âme. Mais c'est une réalité. Deuxièmement, le témoignage de l'Éternel rend sage. On pourrait parler pendant très longtemps sur la sagesse selon Dieu. D'ailleurs, le livre des Proverbes regorge d'exhortations qui nous sont données pour que nous recherchions la sagesse selon Dieu. Paul écrit ceci à Timothée, je ne sais plus si c'est la première épître ou la deuxième épître, Timothée 3,15. Dès ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage, Timothée, sage à salut, en vue du salut. Tu connais les saintes lettres, plus précisément, qui peuvent te rendre sage. La lecture et la méditation de la parole de Dieu rend mature, apporte la sagesse, apporte le discernement, donne du discernement. La vraie sagesse vient de Dieu et elle trouve sa source dans sa parole. Le sage, eh bien, est aussi celui qui est capable d'entendre ou d'écouter la parole de Dieu et de la mettre en pratique dans sa vie de tous les jours. C'est ce que Jésus dit à travers la parabole des deux maisons en Matthieu 7, qu'on connaît bien. Il nous dit que celui qui écoute mes paroles et les met en pratique est semblable à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. Celui qui écoute mes paroles et qui les met en pratique est semblable à un homme sage qui érige sa vie sur un fondement solide, la parole de Dieu. Le témoignage de l'Éternel rend sage. C'est ce qu'affirme le psalmiste. Troisième raison que David évoque pour affirmer que la parole de Dieu est plus précieuse que de l'or et que même l'or, que beaucoup d'or fin, eh bien, c'est que les ordres de l'Éternel, ou bien la loi de l'Éternel, réjouissent son cœur. La parole de Dieu réjouissait le cœur de David, du psalmiste. Psaume 94, verset 19, nous dit Psaume 94, verset 19. Quand, c'est pas la même version, mais évidemment ça veut dire la même chose. Quand mon cœur est agité par une foule de pensées, tes consolations me rendent la joie. La parole de Dieu apporte de la réjouissance au cœur de David. Dans le psaume 119, toujours lui, au verset 111, eh bien David dit « Tes préceptes sont pour jamais mon héritage, ils font le bonheur de ma vie. » tes préceptes, tes enseignements sont pour jamais mon héritage. Ils font le bonheur de ma vie. Je suis heureux de pratiquer, d'appliquer tes commandements, tes ordonnances dans ma Elles réjouissent mon cœur. Suivre les préceptes de Dieu, donc, préceptes divins, obéir à sa loi, réjouissez le cœur de David. La rencontre de Dieu à travers sa parole procure un contentement, une béatitude, une grande satisfaction, procure de la joie. Et pour nous, qui possédons l'entièreté de la révélation écrite et inspirée de Dieu, les promesses eschatologiques dont nous avons fait référence tout à l'heure, liées au temps de la fin, nous apportent également espérance et joie. Espérance et joie. Oui, la loi ou les ordres de l'Éternel réjouissent le cœur. Quatrièmement, le commandement de l'Éternel est limpide. Il éclaire les yeux. Il éclaire les yeux. La parole de Dieu éclaire la vision de l'être humain. Psaume 119, toujours lui, au verset 130, il nous dit « La révélation de tes paroles éclaire. » La révélation de tes paroles éclaire. Elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. Lorsque nous nous plongeons dans les saintes écritures, eh bien, elles agissent comme une lumière qui nous guide, qui nous éclaire. La parole de Dieu nous éclaire sur un tas de choses, sur notre manière de vivre, sur le célibat, sur le mariage, sur le divorce, sur le remariage, sur l'éducation des enfants, sur notre manière de parler, sur notre manière de vivre, sur notre manière de nous accoutrer, de porter un habit vestimentaire. La parole de Dieu nous éclaire sur un tas de choses et elle aborde la majorité des différents sujets auxquels nous pouvons être confrontés. Le psaume 119, verset 105, encore lui, dit « Ta parole, celui-là il est connu, hein. Ben oui, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, et une lumière sur mon sentier. Elle me guide, elle me dirige, elle me montre quelle est la volonté de Dieu pour ma vie. Elle me montre, elle m'éclaire sur les choses que je dois faire et sur celles que je ne devrais pas faire. » La Bible m'éclaire sur ce qui est bon pour moi et sur ce qui ne l'est pas. Le commandement de l'Éternel est limpide, il éclaire les yeux. Il éclaire les yeux. Ta parole est une lampe, elle me montre le chemin, elle me dit où je dois marcher, elle me guide, elle me dirige. Cinquièmement, la crainte de l'Éternel ou la loi de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. La loi de l'Éternel subsiste à toujours. Les lois humaines changent souvent, parce que l'homme, il est versatile. Combien de lois n'ont-elles pas été amendées pour améliorer, soi-disant, la qualité de l'enseignement, par exemple, ou bien par rapport à certaines drogues dont on parle beaucoup aujourd'hui. Tantôt elle est prohibée, interdite, tantôt elle est tolérée dans certains cadres pour bien la canaliser, et puis tantôt elle est légiférée, elle est légalisée. Les lois humaines changent. Mais la loi de Dieu, elle n'a jamais besoin d'une mise à jour. La loi de Dieu n'a jamais besoin d'une mise à jour. Même si certains s'autorisent à apporter des nuances, à la modifier, à changer certaines choses en fonction du contexte, en fonction de l'époque dans laquelle on vit, Pourtant, la Bible reste la parole de Dieu immuable et intemporelle. Elle ne change pas. Dieu ne change pas d'avis. Elle n'est jamais démodée, elle n'est jamais dépassée. Ce qu'elle exige reste vrai à jamais. Ce qu'elle promet reste vrai à jamais. Jésus dit ceci en Matthieu 24, verset 35, un verset qui lui aussi est bien connu. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. La parole éternelle de Dieu. Ce que la Bible a prédit il y a des millénaires, soyons certains que tout cela va se réaliser, que tout cela, ayons la certitude que tout cela va se produire. Jérémie 1, verset 12 nous dit « Je veille sur ma parole, dit l'Éternel, pour l'exécuter, pour l'accomplir. Je veille sur ma parole pour l'accomplir. » Dieu ne change pas d'avis. La parole de Dieu subsiste à toujours, dit le psalmiste. Sa parole reste permanente. C'est un véritable trésor inestimable. Enfin, la sixième raison que le psalmiste avance pour démontrer la valeur qu'a la parole de Dieu à ses yeux, eh bien, c'est que les ordonnances de l'Éternel sont justes. La loi de Dieu est juste. Les paroles de Dieu sont justes. La Bible est parfaitement juste. Sa parole, ses commandements, ses lois ne sont pas arbitraires, mais justes. Ses jugements sont impartiaux. Elle affirme par exemple que l'âme qui pêche est celle qui mourra, mais elle affirme aussi que le juste vivra par la foi. C'est un verdict juste. La parole de Dieu est juste. Les lois morales de Dieu sont justes. Elles maintiennent et elles défendent l'ordre moral que Dieu a lui-même établi. Que le Dieu juste et saint a lui-même établi. Les ordonnances de l'Éternel sont justes car elles sont à 100% inspirées par le Dieu de justice. La parole de Dieu est juste. Le psaume 119, encore lui, au verset 137 et 138, nous dit « Tu es juste, ô Éternel, et tes jugements sont équitables. Tu fondes tes préceptes sur la justice. » Et au verset 144, un peu plus loin, il est écrit « Tes préceptes sont éternellement justes. » Dieu ne change pas d'avis. Ce qu'il a dit il y a 3000 ans reste encore pleinement valable aujourd'hui. Sa justice est éternelle. La justice de sa parole est aussi éternelle. Conclusion. David reconnaît que la parole de Dieu est bonne et précieuse pour lui. Elle est, dit-il, plus précieuse que l'or, même que beaucoup d'or fin. Au cours du XVIe siècle, vous connaissez peut-être Ivan, dit le Terrible, le tsar de toutes les Russies, il avait l'habitude, parfois, de s'habiller en pauvre pour aller parmi son peuple et pour voir comment il vivait. Et puis un jour, il a rencontré une pauvre dame âgée. Et finalement, il en vint à lui parler de Jésus-Christ et lui offrit une Bible en lui disant « Ce livre contient des trésors inépuisables et inestimables. » Un mois plus tard, Ivan, bien habillé, avec des habits somptueux, suivi de ses ministres, rencontra fortuitement cette dame. Et il s'approcha d'elle en lui disant « Mais comment est-ce que tu es encore aussi pauvre ? Et qu'est-ce que tu as fait avec le livre que je t'ai donné ? Avec la Bible que je t'ai donnée ?» Et puis après avoir récupéré le livre, Ivan l'ouvrit à la page où il avait souligné ce verset qui nous dit « Demandez et vous recevrez ». À cette page se trouvait aussi un billet qui avait été rédigé par la propre main d'Ivan. Et il était écrit sur ce billet « Tout porteur de ce billet pourra se présenter au palais pour y recevoir tout ce dont il a besoin. » Signé Ivan, tsar de toute la Russie. Il y a effectivement beaucoup de richesses dans la parole de Dieu. Mais encore faut-il la lire pour pouvoir en profiter, pour pouvoir en bénéficier, pour pouvoir en jouir pleinement. Puisons-nous les trésors que la parole de Dieu met à notre disposition. Puisons-nous les trésors que la parole de Dieu nous offre. Prenons-nous du temps régulièrement pour nous imprégner de la parole de Dieu, pour vivre, penser, agir sous l'inspiration de la parole de Dieu. Qu'elle soit pour nous, comme c'était l'expérience pour David, pour qui la parole de Dieu n'avait aucune commune mesure par rapport à n'importe quel trésor, qu'elle soit aussi pour nous un trésor plus précieux, comme il le souligne, que l'or et même que beaucoup d'or fin. Nous avons entre nos mains un trésor. Est-ce que nous y puisons les richesses qu'il nous offre ?